C'est sur Radio Classique, avec le CIC, partenaire fondateur.
Le journal du classique avec Laure Maison depuis le Festival de Pâques d'Aix-en-Provence avec le CIC, partenaire fondateur.
Bonsoir à tous et bienvenue au Grand Théâtre de Provence où nous allons passer une nouvelle soirée qui s'annonce riche en émotions avec tout à l'heure à 20h30 les frissons wagnériens par l'Orchestre Symphonique National de la RAI, dirigé par Fabio Luizzi, et avec la soprano allemande Gunbrit Barkim, dans quelques pages emblématiques de Lohengrin, de Tannhäuser, de Tristan ou encore de Parsifal, un concert que nous pourrons vivre tout à l'heure en direct. En attendant, nous allons passer un petit moment, une petite demi-heure, avec deux jeunes musiciens aussi brillants qu'inventifs, curieux, désireux de s'aventurer dans des chemins variés et de jongler avec les époques, avec les styles. Le oboïste Gabriel Pidou et le corniste Félix Roth. Bonsoir et merci de passer un moment avec nous.
Bonsoir. Merci beaucoup.
Alors vous jouerez demain à 16h ici à Aix, ce sera à la cathédrale Saint-Sauveur avec vos partenaires de l'ensemble Sarbacane. C'est vrai que vous semblez assez attiré par des répertoires éclectiques. Demain ce sera de la musique baroque, mais vous jouez également de la musique romantique, de la musique moderne, de la musique contemporaine, du jazz. Est-ce que vous êtes représentatif de votre génération? Est-ce que votre génération est très ouverte ou est-ce que ce sont vos personnalités à vous? Qu'est-ce qui répond en premier, Gabriel?
Avec plaisir. Moi, je dirais que oui, on est représentatif de notre génération dans le sens où on a accès maintenant à tout un tas d'enregistrements qui existent et de tout un tas de recherches qui a été faite par les pionniers de la musique baroque, puis la seconde génération, la troisième, et on est peut-être la quatrième, voire la cinquième. Donc, je trouve que aujourd'hui, en tant que musicien, on a la chance de pouvoir interpréter toutes ces musiques avec les instruments, l'instrumentarium de l'époque correspondant. On a toute une telle richesse et tout un tas de répertoires à explorer qu'on aime beaucoup faire. Et notre génération est très curieuse et a la chance de pouvoir faire beaucoup de choses. Donc on en profite et on est très fiers de ça.
Et vous vous sentez particulièrement libre justement de naviguer d'un style à l'autre, peut-être plus libre que vos aînés, Félix?
Oui, disons que je pense que c'est aujourd'hui très important en tant que musicien d'arriver à se réinventer un peu son style et sa manière de jouer et de naviguer entre les œuvres. Et c'est vrai que ce qui est génial, c'est que quand on pousse la porte du CNSM, on a accès à énormément d'options, énormément de cours et je pense que c'est ce qui est incroyable aujourd'hui, c'est cette pluralité des disciplines et des genres musicaux qui s'ouvrent à nous.
Alors vous êtes ici à Aix au Festival de Pâques avec votre casquette de baroqueux puisque vous jouez sur instruments d'époque avec vos partenaires de l'ensemble Sarbacane. Comment définiriez-vous l'esprit de cet ensemble? Vous avez choisi une arme de chasse pour lui donner ce titre. Pourquoi Sarbacane?
Alors Sarbacane avant tout parce qu'on souffle dans des tuyaux et nos notes de musique vont toucher droit au cœur. C'est un peu le but d'une Sarbacane, c'est une Sarbacane pacifiste, on va dire.
Oui, on espère.
Mais l'idée, c'est vraiment de se servir de nos tuyaux, que sont nos hautbois, nos bassons, nos clarinettes et nos cors, pour envoyer la musique le plus largement possible. Et l'esprit de Sarbacane, c'est avant tout sérieux et très concentré sur la recherche instrumentale et la perfection musicale. Mais c'est devenu depuis les 5 ans qu'on travaille ensemble un groupe d'amis très très fort et très très cher.
Exactement. Et surtout, ce qui est, je dirais, extrêmement intéressant avec notre ensemble, c'est la capacité qu'on a à explorer d'autres répertoires et finalement à déplacer un peu le curseur de là où est-ce qu'on attend la musique classique. Et ce qui est intéressant, c'est que même dans Mozart, on croit qu'on connaît à peu près tout de Mozart. Et ben, il y a tout un répertoire qui est absolument extraordinaire et qu'on a la chance et le plaisir de redécouvrir avec Sarbacane.
Donc le répertoire pour instruments à vent, c'est un répertoire qui souvent se jouait en extérieur. C'est un répertoire qui a un esprit particulier et on est dans le divertissement, entre autres.
C'est toujours très festif, les instruments de plein air. Alors on dit ça et en même temps, il y a Mozart qui a écrit des sérénades qui sont soi-disant pour des mariages ou pour des fêtes en plein air, mais il y a une dose d'inventivité, une intensité musicale dans ces pièces-là, qui est pour moi très propre à la musique pour instruments à vent, où tout est un tout petit peu plus condensé de par les difficultés physiques de jouer un instrument avant. Et ça donne une musique beaucoup plus intense, beaucoup plus condensée, qui est accessible, je pense, à plus de monde, de par le fait qu'on peut la jouer dehors et qu'elle dure aussi parfois moins longtemps qu'un quatuor qui peut être très très long.
Puis il y avait toute une vogue aussi à l'époque de Mozart, de Beethoven, de l'harmonie musique et de d'écrire pour les vents. Et c'est vrai que la sérénade en do mineur qu'on va jouer demain à la cathédrale Saint-Sauveur, c'est vraiment un exemple de virtuosité. Et vraiment, Mozart a écrit pour des solistes en particulier. Et ça, c'est quelque chose qui aujourd'hui nous semble peut-être un peu étrange, parce que quand on pense musique classique, on pense plutôt violon, piano, violoncelle. Mais à l'époque de Mozart, finalement, ces barrières, elles étaient beaucoup plus souples. Et ça a donné des œuvres extraordinaires.
Donc nous, on casse les codes avec nos instruments avant de la musique classique en jouant de la musique qui a 300 ans, c'est quand même une prouesse.
Alors vous jouerez Mozart demain, mais aussi Weber et Schubert. Et on va vous écouter dans quelques pages de Télémane un extrait du premier enregistrement de l'album de l'ensemble Sarbacane, placé sous le signe de la chasse. Donc la chasse qui nous renvoie à votre instrument, Félix Roth, le cor.
Tout à fait.
Instrument emblématique.
Exactement. C'était un peu, je peux vous le dire, carrément une aventure, un laboratoire cet enregistrement, parce qu'en fait on s'est intéressé à des instruments baroques, les cors, on ne peut pas énormément modifier la justesse, donc ça veut dire qu'on joue avec une justesse naturelle,
oui, alternative. Oui, c'est le principe du cor naturel, mais il faut expliquer quand même pour les auditeurs que c'est pas, on n'a pas de piston, enfin c'est beaucoup plus difficile.
Exactement, c'est-à-dire que ça revient à peu près à la même chose que d'avoir un tuyau d'arrosage avec soi, sauf que c'est un instrument magnifique en métal,
oui, c'est mieux que le tuyau d'arrosage.
C'est quand même un tout petit peu plus pratique, mais en termes de justesse naturelle, finalement, on n'a qu'une série de notes, c'est assez limité. Mais ce qui est intéressant, c'est que les compositeurs de l'époque de Télémane, plutôt que de le voir comme quelque chose de contraignant, ils en ont fait, je dirais, une beauté stylistique, et c'est ce qu'on a essayé de souligner, en tout cas, dans cet album.
Pour tout vous dire, le slogan, ce serait. Vous pensez que c'est faux, mais en fait, c'est bio. On n'a pas réussi à obtenir le label bio pour ce disque, mais
génial,
c'est très naturel.
Thank you.
Quelques extraits, passe-pieds et rigodons d'une ouverture de Téléman interprétée par l'ensemble Sarbacane que nous écoutions avec deux membres de l'ensemble, Gabriel Pidou et Félix Roth qui sont nos invités ce soir dans le Journal du Classique ici au Grand Théâtre de Provence dans le cadre du Festival de Pâques. On évoquait tout à l'heure avec vous Félix ces cordes naturelles que vous jouez dans cet instrument. Du coup, vous jonglez avec les instruments lorsque vous jouez la musique romantique. C'est un autre instrument. Vous avez combien de corps différents?
Là, pour l'instant, je dirais que ma collection, oui, bien sûr, ma collection est à 4-5 instruments, mais c'est vrai que quand on s'engage dans ce métier, on devient presque un brocanteur.
Ouais. C'est pareil pour vous, oui, Gabriel,
moi,
pour les hautbois.
J'ai 11 hautbois, alors je le bats,
ah, oui.
Plus du double. Mais oui, bah, pour les hautbois, en fait, à chaque décennie, il faut en trouver un autre, à chaque pays, il faut en trouver un autre. Enfin, c'est tout complexe, mais comme dit Félix, on devient des brocanteurs et des dénicheurs d'instruments et de perles rares, voilà, à nos risques et périls du porte-monnaie, mais on s'en sort.
Mais après, ce sont des techniques aussi très différentes quand on passe d'un instrument à un autre, surtout du corps naturel ou au corps moderne. Enfin, j'imagine qu'avec le hautbois aussi. Donc, il faut s'adapter techniquement. Il y a des grandes différences, des grands changements.
Oui, il y a tout un. Je dirais que c'est un échange entre la technique et la musique, parce que ce qui est intéressant finalement dans cette démarche des instruments anciens, c'est qu'il y ait un dialogue plus direct avec le compositeur. C'est-à-dire que quand on arrive face au texte musical, bah, on se rend compte de choses qu'on ne pouvait pas se rendre compte avec des instruments modernes. Et c'est ça qui est assez fascinant.
Et moi, on me dit souvent, passer du hautbois moderne au hautbois baroque, est-ce que c'est pas compliqué? Alors certes, du hautbois moderne de maintenant au hautbois baroque de 1780, c'est compliqué, mais quand entre les deux, on fait aussi le hautbois de 1700, le hautbois 1720, et ainsi
donc
de suite.
Donc il y a quelques paliers.
Voilà. En fait, on s'actualise, et ce qui fait qu'on redescend tout simplement à la technique baroque, et on remonte tout naturellement à la technique moderne. Donc c'est, voilà, le plus on en fait, le plus c'est facile, disons, enfin, facile, non, mais le plus c'est commode, dirons-nous.
Et puis il y a toutes sortes d'instruments qui ont des formes parfois originales. On a repéré hier pendant la Passion selon saint Matthieu, une magnifique Passion selon saint Matthieu ici à Aix, des hautbois d'acacia qui ont une forme arrondie. Vous en jouez, Gabriel Pidou?
Alors moi j'en ai joué, j'en ai pas personnellement, et ça c'est un instrument que j'aime énormément et que Bach a énormément utilisé, qui a été ensuite remplacé, si on peut dire, l'évolution a fait qu'il est devenu ce qu'on appelle maintenant le cor anglais. Ce hautbois en face, c'est en fait à la base une quinte de hautbois, un hautbois, disons que c'est l'alto de la famille des hautbois, et c'est un instrument magnifique que Bach a énormément utilisé, et hautbois d'acacia qui veut dire de chasse, qui se rapproche un peu de notre programme de chasse. Il est fort probable que Téléman a aussi écrit des belles pages pour le hautbois de chasse, donc oui, c'est un instrument que j'adore.
Alors vous jouerez demain à la cathédrale Saint-Sauveur, c'est le grand concert pour les Aixois du Festival de Pâques d'Aix-en-Provence. Vous jouerez des musiques de Mozart, de Schubert et de Weber, avec un peu de contrebasse, puisqu'à l'époque, souvent, on associait la contrebasse aux instruments d'avant. Félix, dans ce genre de musique.
Exactement, ouais, c'est vrai que ça apporte une rondeur, une chaleur qui est vraiment exceptionnelle, alors que c'est juste seulement un instrument en plus. Et disons que c'est même... peut-être même plus qu'un instrument en plus, c'était une tradition, c'est-à-dire que souvent la partition n'était même pas notée, mais on considérait que voilà, il y avait un contrebassiste ou un contrebasson disponible pour faire ce qu'on pourrait appeler un cesse-pied dans le jargon des organistes pour la basse.
Alors vous jouez de la musique baroque, vous jouez Mozart, vous jouez Schubert, vous jouez de la musique romantique, on va l'évoquer, on va l'écouter, vous jouez de la musique contemporaine, vous jouez du jazz, vous composez, vous êtes deux musiciens, on le disait tout à l'heure, très ouverts, très curieux, très éclectiques. Est-ce que cela vient en partie de votre famille, puisqu'on va quand même l'évoquer, vous êtes tous les deux, vous appartenez tous les deux à une grande lignée de musiciens. On commence avec le grand-père Roland Pidou, le papa Raphaël Pidou, deux grands violoncellistes.
Et la grand-mère et la mère aussi. En plus, enfin, tout est lié. C'est vrai que pour moi, j'ai tendance à dire que je viens d'un milieu quasiment monoculturel où la musique classique était la seule chose qui réunissait tout le monde. Enfin, pas la seule chose qui réunissait tout le monde, mais qui était quelque chose qui réunissait tout le monde. Et donc pour moi, ça a été très vite très naturel. Et je pense que il y a beaucoup de chemin que je fais aujourd'hui qui est dû tout cet héritage génétique, disons, qui me facilite les choses. Et je pense que pour Félix, c'est pareil.
Un bel héritage génétique, voilà. Aussi entre Daniel Roth, grand organiste, François Xavier, qu'on ne présente plus.
Mon autre grand-père aussi, Michel Debos, qui était flûtiste.
Ah bah oui.
Et c'est vrai que je dirais que c'est quelque chose d'assez précieux, et je pense que ça permet aussi finalement de s'autoriser à aller voir dans d'autres territoires que voilà, un parcours classique où on chercherait d'abord à rentrer dans un orchestre avant tout. C'est vrai que je pense que je dois beaucoup à mon entourage, à ma famille pour m'avoir soutenu, m'avoir permis d'aller voir dans plusieurs horizons différents.
Oui, puis votre papa, il navigue quand même dans des horizons très différents aussi et jongle
oui,
avec
complètement, ouais, tout à fait.
Alors, on va se plonger dans l'univers romantique avec vous, Gabriel Pidoux, puisque vous avez enregistré l'année dernière un magnifique album en compagnie du pianiste Jorge González Buarasan, qui sera d'ailleurs ces prochains jours, lui aussi, au Festival de Pâques d'Aix-en-Provence. Un album donc aux accents romantiques, et on va écouter une musique très romantique, signée Edouard Elgar. Le salut d'amour d'Edouard Elgar avec Gabriel Pidoux au bois et Jorge González Buarasan au piano, un extrait d'un magnifique album sorti l'année dernière. Et nous sommes toujours en compagnie de Gabriel Pidoux et de Félix Roth qui nous font le plaisir de passer un moment avec nous ce soir sur Radio Classique. Donc on était dans une ambiance romantique. La musique romantique, vous la jouez également, Félix Roth, au corps. Il y a de beaux chefs-d'œuvre pour votre instrument.
Oui, tout à fait. Et ce qui est aussi intéressant, c'est que de plus en plus aujourd'hui, de nos jours, on se tourne vers la musique romantique un peu comme on se tournait vers la musique classique et baroque en prenant d'autres instruments.
Ouais.
Et c'est vrai que c'est un répertoire exceptionnel, autant à l'orchestre qu'en musique de chambre, c'est vraiment fabuleux.
Alors, l'un des plus grands chefs-d'œuvre, c'est le trio Opus 40 de Brahms. Mais vous allez enregistrer des pages de Schumann, c'est ça?
Oui, tout à fait. Avec Théo Fouchonneret, on a enregistré une intégrale Schumann. Et c'est vrai que c'est une musique exceptionnelle et c'est un compositeur qui a eu énormément de culot d'écrire pour le hautbois aussi, hein, pour
ouais.
le hautbois et le corps. C'était un répertoire très rare. Et on a beaucoup de chance d'avoir ces petits bijoux à jouer.
Oui, parce qu'il y a des très belles pages de Schumann dans le disque de Gabriel. Vous avez prévu un nouvel enregistrement avec Jorge González Buarasan, qui entre-temps a enregistré un très beau disque avec Manon Gali.
Ça fait plaisir, mais il est beaucoup trop occupé, Jorge. Mais on va retrouver. Oui, il y a énormément de choses à enregistrer en sonate pour le hautbois. Moi, j'ai des projets de musique française ou des choses comme ça. Et, ouais, avec grand plaisir.
Alors, vous jouez aussi régulièrement au sein d'orchestres. Est-ce que vous en avez besoin? Est-ce que vous aimez cela, Félix?
Ah oui, je pense que pour nos deux instruments, que ce soit le hautbois ou le cor, c'est des instruments d'orchestre, ouais, avant tout, avec un répertoire magnifique. Et c'est vrai que je pense que c'est quelque chose qu'on aime particulièrement tous les deux. Alors, pendant mes études, jouer dans les grands orchestres parisiens, mais maintenant, ce que j'aime beaucoup aussi, c'est jouer dans des orchestres de projet, comme celui de Julien Chauvin avec le Concert de la Loge, les Champs-Élysées de Philippe Hervègue. Ça, c'est vraiment des ensembles qu'on affectionne tous les deux particulièrement, parce que c'est intéressant de se plonger dans un répertoire fantastique avec tous les contours historiques, je dirais.
Et vous aussi, Gabriel, vous étiez encore tout récemment à l'orchestre.
Oui, et effectivement,
je
suis parti ce matin très tôt, j'arrive de Milan, où en ce moment je fais un remplacement à la Scala de Milan, donc c'est une expérience assez incroyable.
Dans la fosse, hein.
Dans la fosse, oui, dans la fosse aussi, les concerts symphoniques et tout ça, et c'est un peu une première pour moi de me retrouver dans un orchestre comme ça, fixe, qui joue des opéras, des chefs-d'œuvre quasiment tous les soirs dans une salle mythique, donc c'est extrêmement intéressant, et comme le dit Félix, à côté de ça, j'adore aussi prendre part à des projets comme les orchestres sur instruments d'époque, parce qu'effectivement on apprend énormément, mais le métier d'orchestre c'est quelque chose qui s'apprend, il n'y a pas d'autre manière que de le faire, quoi. Au conservatoire on aborde les concepts, mais je pense qu'on ne peut pas vraiment comprendre avant de s'être retrouvé au milieu d'un orchestre, et c'est vrai que le cor et le hautbois ont tous les deux des places stratégiques où forcément on apprend assis à la chaise et à essayer de comprendre ce que veut le chef et ce qu'attendent les collègues de nos positions. Assez faut rappeler quand même que dans le Guinness Book des records, le hautbois et le cor sont les deux instruments les plus difficiles au monde. C'est le Guinness Book des records qui le dit. Alors nous,
bravo, félicitations. Alors s'il fallait citer un solo ou une œuvre en particulier dans lequel votre instrument, le cor par exemple, Félix Roth, au sein de l'orchestre est le plus exaltant à jouer.
Alors c'est très subjectif.
Ou un compositeur, justement, c'est ce qui nous intéresse.
En tout cas, au sein de l'orchestre, moi je dirais que c'est Bruckner, vraiment. Ouais. Bruckner, c'est exceptionnel. Autant pour l'écriture de la section des corps que pour les solos qu'il nous a écrits, c'est fabuleux.
Ah, pour les auditeurs, hein, les corps dans Bruckner, je confirme. Et pour vous, Gabriel?
On parlait de Brahms tout à l'heure, il y a ce fameux solo de hautbois du deuxième mouvement du concerto pour violon. Et puis il y a même un violoniste qui ne voulait pas jouer ce concerto parce qu'il
estimait que c'était un concerto pour hautbois.
Alors moi, ça me va, si on vole la vedette au violon, je suis preneur. Et puis c'est des pages magnifiques, mais on parle du Lac des Cygnes, on va dire, dis donc, il cite le Lac des Cygnes, mais c'est quand même
sublime.
Une page incroyable.
Ah bah voilà, oui, le solo de hautbois du Lac des Cygnes. On va vous écouter faire chanter votre hautbois une nouvelle fois, Gabriel Pidoux, puisqu'on n'a pas encore d'enregistrement. On attend l'enregistrement de Félix Roth avec Théo Fouché-André. Un enregistrement que vous avez réalisé avec Ophélie Gaillard et son ensemble Pulcinella, un extrait d'un concerto grosso de Handel avec un sublime solo, un sublime largo pour le hautbois. Thank you. l'argot du concerto grosso en si bémol majeur de Handel, interprété par l'ensemble Pulcinella d'Ophélie Gaillard, avec le sublime hautbois solo de Gabriel Pidoux, qui est avec nous ce soir, en compagnie également de Félix Roth. Vous jouerez tous les deux demain en l'église Saint-Sauveur d'Aix-en-Provence, dans le cadre du Festival de Pâques, avec vos complices de Sarbacane. Alors, on s'est plongé dans différents univers musicaux avec vous. La musique de Telemann, on a évoqué Mozart, Schubert, la musique romantique, la musique d'aujourd'hui aussi, vous la jouez, et notamment le jazz. Félix, vous êtes, je crois, au conservatoire. En tout cas, vous avez également étudié le jazz au CNSM.
Alors, pas au CNSM, mais il se trouve que j'ai fait un passage au CRR de Paris pendant un an dans la classe de spé jazz. Alors, le jazz, ça, c'est une musique qui reste dans mon cœur de manière voilà, extrêmement précieuse et que j'écoute quotidiennement. C'est vrai que maintenant, aujourd'hui, j'en fais un tout petit peu moins. Je pense que la musique ancienne et ses activités, entre autres avec Sarbacane, ont un peu volé la vedette à ce genre. Mais en tout cas, oui, c'est un style, puis une manière aussi de voir la musique, quoi, dans l'improvisation, dans l'instant que j'aime énormément.
Et puis il y a la composition, vous étudiez également la composition. Est-ce que vous avez déjà écrit
tout
des œuvres pour des artistes en particulier?
J'en ai joué une.
Ah oui?
Oui, bien sûr. Bah, je viens d'intégrer le CNSM en composition pour l'année prochaine. Et je vais participer notamment cet été à l'Académie Manifeste de l'IRCAM avec l'ensemble intercontemporain.
Et pour qui rêveriez-vous d'écrire, Félix Roth, si on vous proposait, en dehors de Gabriel Pidoux, hein.
Ah, c'est dur. Dur de dire.
Ou pour quelle formation, ou quel ensemble, ou quel artiste en particulier, si vous aviez le choix, et que tout était possible.
Ah, c'est pas simple.
Ouais.
Ah, je pense que un de mes grands rêves, ça serait d'écrire pour une formation d'instruments avant, avec dispositif d'électronique, et vraiment écrire une grande pièce pour, en tant que compositeur aussi, participer un peu à élever un nouveau répertoire pour les instruments avant.
Donc pour Sarbacane, par exemple.
Ah ouais, pourquoi pas.
Je tremble
déjà.
Il
faut convaincre les collègues de l'ensemble.
Alors Sarbacane, on pourra l'entendre, on pourra vous entendre avec vos collègues de Sarbacane demain. Ce sera à 16h en la cathédrale Saint-Sauveur d'Aix-en-Provence, dans le cadre du Festival de Pâques. D'autres dates cet été avec ou sans Sarbacane, Gabriel Pidoux?
Plein, et heureusement, et c'est chouette, et je m'en réjouis, plein de choses, notamment aux escapades musicales sur le bassin d'Arcachon, au Festival d'Albi, à Mel aussi, et puis cet été, s'insérer avec Sarbacane, comme vous le disiez, on va jouer aussi à la Poste aux Chevaux, avec Félix aussi, on va faire
une tête
de Mozart, enfin énormément de dates, tellement que sur le site, elles sont beaucoup plus claires que ce que je dis tout de suite.
Donc on va tous sur le site de Sarbacane.
Ça,
et puis on attend votre premier enregistrement.
Tout à fait,
Félix, qu'on puisse le diffuser sur Radio Classique.
Tout à fait. Oui, je veux juste dire aussi que j'aurai le plaisir de jouer avec Jean-François Esser au Festival Ravel en septembre aussi, autour d'un programme Schumann.
En tout cas, merci beaucoup. On était ravis de vous avoir ce soir sur le studio de Radio Classique. Merci infiniment,
merci
Gabriel Pidoux et Félix Roth. Merci au public qui est venu nous tenir compagnie dans le hall du Grand Théâtre de Provence. Merci à Lucille Metz. Alors, vous savez qui j'aurai comme invité? Alors, ce sera lundi dans ce journal du Classique.
Ouais.
Félix, je crois que vous en doutez. On reste dans la famille.
Bah oui, bien
papa.
Sûr.
Voilà, papa, François-Xavier Roth. Je ne sais pas si vous allez vous croiser.
Oh oui, on va se faire un petit déjeuner, bien sûr.
Merci à tous. Je vous retrouve dans un tout petit instant pour poursuivre cette soirée en direct du Grand Théâtre de Provence. On va se plonger dans l'ambiance wagnérienne avec Fabio Luigi et l'Orchestre Symphonique National de la RAI. À tout de suite, donc.
La magie du Festival de Pâques, c'est sur Radio Classique, avec le CIC, partenaire fondateur.